Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. La mémoire désunie, le souvenir politique des années sombres, de la libération à nos jours, c'est le titre du livre au sommaire de cette émission. Nous en parlons avec son auteur, Olivier Wiewórka. Bonjour.
Bonjour.
Votre ouvrage est publié dans la collection L'Univers historique aux éditions du Seuil et il tombe à point pour éclairer, pour comprendre et remettre en perspective une actualité riche autour des commémorations du 70e anniversaire de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, de la défaite de 1940 et de l'appel du 18 juin. Quel est le point de départ de ce livre, Olivier Wiewórka ?
Le point de départ, c'est tout simplement que le ministère de la Défense a lancé un appel d'offres pour tout simplement voir la manière dont les pays en Europe ou dans le monde commémoraient les guerres, en règle générale, la première mais également la seconde, voire le Vietnam. Car vous avez une inquiétude, je crois, de la part des pouvoirs publics qui est de se demander ce que deviendront dans 10, 20, 30 ans les commémorations relatives à la première, à la seconde guerre mondiale. Donc il voulait en quelque sorte une étude comparative et je me suis chargé de la seconde guerre mondiale en France.
Il faut dire que l'histoire de la mémoire est devenue un champ de recherche particulièrement dynamique. Votre ouvrage veut donc aussi combler une lacune, c'est-à-dire offrir une vision d'ensemble dans une production historique et mémorielle qui devient touffue.
Oui, tout à fait. Vous avez énormément de livres, d'articles, de thèses consacrés à la mémoire, mais ce sont en règle générale des travaux partiels qui donnent une image sur la mémoire de Vichy, sur la représentation de la guerre au cinéma, sur la manière dont les résistants ont essayé de forger au fond une politique mémorielle. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de juxtaposer, de synthétiser l'ensemble de ces approches pour donner au fond plus d'intelligibilité. Car je crois qu'il faut bien insister sur ce point, ce que l'on appelle la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France, recouvre en fait trois réalités. Vous avez d'abord une mémoire qui est une mémoire de la guerre, mais au fond, la France a assez peu connu la guerre. La guerre, c'est mai-juin 1940 d'une part, et puis l'été 1944. Pour le reste, la France n'est pas véritablement en guerre, même si elle subit bien entendu les bombardements. En revanche, vous avez deux autres réalités qui ont pesé lourdement. L'occupation, du nord d'abord, de l'ensemble de la France ensuite, et puis bien entendu la mémoire du régime de Vichy. Ces trois réalités, nous historiens, nous pouvons les dissocier. À l'époque, elles ont été, bien entendu, vécues dans un ensemble, dans un continuum.
Alors, vous laissez de côté, pour l'instant, une quatrième mémoire, qui est pourtant une mémoire qui va jouer un très grand rôle dans l'après-guerre, qui est la mémoire de la France libre.
Oui, mais vous avez entièrement raison, la mémoire de la France libre. Mais au fond, cette mémoire de la France libre, je dirais qu'elle a relativement peu pesé, hormis le rappel récurrent de l'appel du 18 juin, tout simplement parce qu'elle est confondue, au fond, avec la mémoire de la résistance. Si vous prenez précisément l'un des hommes symboles, c'est Jean Moulin. Et Jean Moulin, bien entendu, est un représentant du général de Gaulle, bien entendu, est un représentant du gaullisme de guerre. Mais il peut être aussi considéré comme un résistant de l'intérieur. Il a d'ailleurs beaucoup plus combattu en métropole qu'à Londres. On voit bien d'ailleurs qu'il y a assez peu de grands héros de la France libre, hormis les généraux dont Leclerc est bien entendu l'archétype.
Alors Olivier Wiewórka, votre thèse, votre thème dans cet ouvrage, ce n'est pas de faire un point global sur les mémoires dont on vient de voir qu'il faut les mettre au pluriel de la Seconde Guerre mondiale, mais précisément c'est l'examen des politiques publiques de gestion de la mémoire des années sombres, donc depuis la libération. Vous suivez un plan chronologique. On part donc de la libération 1944-1945. Alors, le pouvoir a dû éclairer le sens de cette période tragique dont les Français sortaient à peine et l'insérer dans un grand récit national. Vous soulignez d'abord que la tâche pour les autorités dans les premiers mois après la libération est titanesque. Il faut châtier les traîtres, enterrer les morts, exalter les héros, indemniser les victimes et leur conférer un statut, tout cela dans les premières semaines, les premiers mois.
Oui, imaginez les gouvernants. Qu'est-ce que vous faites après ce désastre ? Qu'est-ce que vous faites après ce désastre ? Vous avez des problèmes matériels que vous venez de rappeler, il faut enterrer les morts. Mais enterrer les morts, ce n'est pas simple. Est-ce que, par exemple, on va considérer qu'il faut enterrer les résistants comme des militaires ? Est-ce qu'il faut enterrer les victimes des bombardements comme des soldats ? Est-ce qu'on peut mettre des résistants à
Alors,
côté...
ce sont des problèmes pratiques, en fait, très simples. Est-ce qu'on rend les hommages militaires, par exemple, aux
les hommages militaires. Est-ce que c'est l'État qui va payer pour les tombes? C'est quand même des problèmes très, très importants. L'État, par ailleurs, doit offrir aussi des compensations symboliques aux communautés. La communauté juive, la communauté des requis au service du travail obligatoire. Donc, il doit ordonner, au fond, leur place dans ce roman national. Et puis, il doit donner du sens à ce qu'il vient de se passer. Car c'est aussi à l'État de dire, au fond, la vérité, sa vérité de ce qui s'est produit. Donc, tous ces éléments composent une politique mémorielle qui est assez compliquée à gérer parce que, d'une part, vous avez les vœux des gouvernants. Les gouvernants souhaitent affecter un sens à ce qui s'est produit, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la demande sociale, les gens, dirait Marie-Georges Buffet, qui demandent aussi un certain nombre de droits auxquels l'État va souscrire ou non.
Alors c'est donc le général de Gaulle qui est la tête du gouvernement provisoire de 1944 à 1946, le général de Gaulle qui s'est déjà posé la question, qui dès 1940, 1941, 1942 réfléchit au sens qu'il faudra donner aux Français à la libération qu'il espère prochaine à ce moment-là.
Oui, il faut rappeler qu'à l'époque nous avons des gouvernants cultivés et que le général de Gaulle connaît le poids de l'histoire. Donc bien entendu il réfléchit au sens. Alors pour le général de Gaulle l'équation est simple. L'équation est simple. Premier élément, la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, a vécu, au fond, une expérience très douloureuse, mais elle s'est finalement bien comportée. L'ensemble des Français ont été résistants. Ce qui veut dire, par ailleurs, qu'un certain nombre de problèmes ne sont pas posés sur la place publique par le général de Gaulle. C'est le problème de la défaite de 1940, qui est en quelque sorte éludé, mais c'est également la non-reconnaissance du régime de Vichy. Le régime de Vichy, au fond, n'a jamais existé, vous n'avez jamais eu des milliers de Français qui acclamaient le maréchal Pétain. C'est également une très grande indifférence au drame subi par la communauté juive, qui n'apparaît absolument pas dans le discours gaulliste et gaullien. Par ailleurs, de Gaulle montre une certaine envie, développe une certaine vision de la guerre qu'il incorpore à un bloc. Pour lui, c'est la guerre de 30 ans, ce qu'il affirme, vous venez de le souligner, dès la guerre. Vous avez donc un continuum qui va de 1914 à 1944. L'avantage, il est double, c'est d'une part de désidéologiser la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que ce n'est plus un combat des démocraties contre les totalitarismes, c'est une fois de plus la France en lutte contre l'ennemi éternel, contre l'Allemagne, c'est le premier avantage, et du coup cela permet également de relier le souvenir moins glorieux de la Seconde Guerre mondiale au souvenir plus glorieux, de la Première. Alors vous allez me dire, tout ça c'est des paroles, dirait Dalida, mais par tout un ensemble de symboles, il va s'efforcer d'inscrire cela dans le marbre du souvenir. Par exemple, quand il salue les forces françaises libres qui défilent, il va déposer une gerbe devant la statue de Clémenceau, le grand héros de la Première Guerre mondiale. Donc par tout un ensemble de gestes, si vous voulez, vous avez par exemple aussi un défilé qui reprend la formule du défilé de la victoire de 1919 pour accréditer ce parallélisme.
Et la grande tâche que se fixe le général de Gaulle, c'est donc de restaurer la fierté nationale française. Et donc, dans les premiers mois, l'essentiel des pouvoirs publics se consacre à l'exaltation de la résistance et à l'exaltation des héros. Et vous dites qu'au début, le pouvoir ignore en grande partie les victimes civiles, les juifs déportés, les requis du STO, les populations bombardées. Il y a des aides effectives, on leur vient en aide pour traverser les premières semaines et les premiers mois dans des conditions matérielles très difficiles, mais pas de reconnaissance symbolique.
Non, pas de reconnaissance symbolique. Comme vous le dites, tout simplement, on leur donne des sous, tout simplement parce que vous avez un dénuement dans cette France de l'après-guerre qu'on a peut-être du mal à se remémorer. Mais on leur donne de l'argent, mais on ne leur donne pas de reconnaissance symbolique. Et pourquoi ? Parce qu'il faut reconstruire. Et on a souvent reproché au général de Gaulle cette politique. Pouvait-on envisager de construire l'avenir avec une politique de repentance ? Dans une certaine mesure, c'était très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est au fond ce que le gouvernement allemand a choisi. Le fait que Adenauer se sente comptable des crimes du nazisme, même s'il n'en était pas responsable, n'a pas empêché le décollage économique de l'Allemagne, décollage économique qui a été prodigieux. Mais pour le général de Gaulle, il faut inspirer confiance, il faut inspirer, insuffler de la foi dans l'avenir, et tout cela exclut par conséquent toute démarche que nous appellerions nous aujourd'hui de repentance.
Alors, Olivier Véorca, on va être obligé d'avancer à grands pas dans votre ouvrage, La mémoire des unis, le souvenir politique des années sombres, de la libération à nos jours, et puis suivons le fil justement du général de Gaulle, passons vite sur la 4e République, 1946-1958, pour nous intéresser au retour au pouvoir du général de Gaulle, donc à partir de 1958, l'instauration de la 5e République, qui commence là un autre versant de sa politique de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, avec, vous le dites dès le début, l'accent mis sur une politique monumentale et là de grands gestes symboliques, donc le transfert des restes de Jean Moulin au Panthéon, et puis une politique monumentale qui s'inscrit dans le paysage français.
Oui, tout à fait. C'est le moment où vous avez construction d'un certain nombre de monuments. Je pense par exemple à l'inauguration du mémorial de la déportation à l'île de la Cité. Je pense par exemple à l'inauguration du musée mémorial du Mont-Faron. Donc vous avez véritablement une politique mémorielle de grande ampleur qui également est soutenue par une politique de commémoration, tout simplement parce que le général de Gaulle va donner beaucoup d'argent au ministère des Anciens Combattants pour qu'il assure ces commémorations. Mais toujours, soulignons-le, de manière très sélective, car ce que l'on commémore à l'époque, il faut bien insister, je pense sur ce point, ce sont les héros, ce ne sont pas les victimes. Vous avez d'ailleurs une confusion entre les déportés raciaux juifs et une confusion et les déportés résistants. L'île de la Cité rend hommage aux deux catégories sans les distinguer, ce qui pour nous paraît tout à fait aberrant. Donc vous avez cette politique qui est tout à fait sélective et qui vise ici encore à redonner confiance, à faire que la France soit fière de son passé plutôt qu'elle en ait honte.
Alors on est passé vite sur la période précédente. Vous signalez quand même, je fais un petit retour en arrière, une exception dans le traitement de la mémoire dans ces années 50, c'est le premier mémorial dans le monde consacré à la Shoah, c'est le tombeau du martyr juif inconnu, inauguré en 1956, donc avant le retour au pouvoir du général de Gaulle. Vous insistiez sur les questions pécuniaires, les questions matérielles et les différences de traitement entre déportés résistants et déportés qu'on à l'époque, hein, dit politique, qui passe aussi justement par des questions financières, parce qu'à l'époque, il y a une différence de traitement dans les pensions entre les déportés résistants et les déportés juifs et politiques, avec l'insistance qui nous paraît aberrante aujourd'hui sur le mérite respectif de chacun.
Tout à fait. Jusqu'en 1970, un déporté dit politique, dans les faits juifs, hein, le plus souvent juif, touche moins d'argent qu'un déporté résistant. Et ceci est explicitement voulu par le législateur, tout simplement parce qu'il estime que le résistant qui a été envoyé dans un camp de concentration paye par sa déportation un acte de courage volontaire, alors que le déporté politique n'est au fond que victime du malheur des temps. Il veut par conséquent récompenser cette prise de risque. Ce qui, soulignons-le, est une exception française, puisque en Belgique, par exemple, les deux statuts ne sont pas dissociés. Cette injustice, il faut bien appeler les choses par leur nom, ne sera réparée qu'en 1970, mais elle est tout à fait significative d'une hiérarchie des mérites que les normes juridiques imposent et qui place au sommet le déporté résistant et à un échelon, disons, subalterne, le déporté juif.
Parce que l'objectif premier, c'est donc de restaurer la fierté nationale, et donc il faut mettre en valeur par tous les moyens, et cela en est un, donc l'engagement héroïque de ceux qui ont résisté.
Absolument, il faut redonner confiance en sculptant des statues de héros.
Alors, l'histoire savante ne conteste pas ce discours à l'époque.
Non, parce que vous avez une histoire savante qui se penche relativement peu sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. D'abord, vous avez très peu de gens qui travaillent sur le génocide à l'époque. Hein. Vous avez effectivement Léon Poliakov, mais c'est quelqu'un de très isolé. Vichy n'est quasiment pas étudié. Vous savez qu'il faudra attendre le livre de l'Américain Robert Paxton en 1973 pour que Vichy déboule en quelque sorte sur la place publique. Et vous avez une histoire de la résistance qui est une histoire relativement hagiographique qui, au fond, pèse assez peu. Hein, des noms comme celui, par exemple, d'Henri Michel, qui a veillé aux destinées du Comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui un nom relativement oublié. Et ses travaux, malgré leur valeur, font moins autorité que les travaux de Robert Paxton ou de Jean-Pierre Azéma, pour ne citer que ces deux exemples.
Alors, Olivier Véorca, on en arrive au chapitre 4 de votre ouvrage, consacré donc aux présidences successives de Pompidou et de Giscard d'Estaing, chapitre que vous avez voulu intituler « Le temps des bourrasques ». Pourquoi ce titre ?
Tout simplement parce que, et ceci a été bien montré par les historiens travaillant sur la propagande de la Première Guerre mondiale, un discours de propagande ou un discours mémoriel ne fonctionne que si les gens, si l'opinion publique y croit. Or, se produit dans les années, à partir des années 70, à la fin des années 60 et au début des années 70, au fond un décalage entre une opinion publique qui réclame la vérité sur un certain nombre de points. Ces points, ce sont d'abord et avant tout Vichy et la déportation des Juifs de France. Et d'autre part, un pouvoir qui s'arc-boute, au fond, à la légende sainte, disant « les Français ont été formidables, Pétain n'a jamais existé ». Et ce hiatus entre ce qu'on va appeler une demande sociale de vérité et un pouvoir politique crispé qui refuse précisément cette exigence de vérité va provoquer un certain nombre de crises mémorielles. Quand je dis refuse, c'est un élément très simple, c'est que jusqu'à la loi de 1979, les historiens n'ont pas accès aux archives sur la période, donc ils ne peuvent pas travailler, hormis bien entendu sur des archives allemandes, ce qu'a fait Robert Paxton.
Alors vous dites que le pouvoir est crispé sur la légende dorée de la résistance en France. En vous lisant, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que cela, en tout cas pour ce qui concerne la personnalité du président Pompidou, qui n'est pas en fait si sensible que ça à cette légende de la résistance.
Non, il n'est pas sensible. Donc vous avez d'une part révérence faite à la résistance, mais on sent bien qu'au fond, Georges Pompidou n'a pas d'affection pour la résistance.
D'abord,
il n'en est pas. Il n'a pas résisté, contrairement à ce qu'a fait croire sa propagande électorale en 1969. Ce n'est pas un résistant. Et d'autre part, il n'a pas la résistance ne lui dit pas, ne parle, je dirais, ni à son esprit, ni à son cœur. Et donc vous avez une volonté d'apaiser, au fond, les tensions que Georges Pompidou perçoit, et cette volonté de conciliation, de réconciliation nationale, dit-il, va aller jusqu'à des gestes qui nous paraissent tout à fait imprudents, et même au-delà, comme par exemple la grâce accordée au milicien Paul Touvier, en 1971, mais qui est révélé par le journaliste Jacques Dorogy en 1972 et qui provoque un scandale, un véritable
tumulte. Au nom de la réconciliation.
Donc. Au nom de la réconciliation nationale. Mais beaucoup de Français se demandent pourquoi on devrait se réconcilier non seulement avec des vichistes, mais avec la part la plus sombre et la plus ignoble de Vichy, c'est-à-dire la milice, je veux dire, qui est véritablement l'abomination de la désolation.
Alors la grâce de Paul Touvier en 1972, et donc vous l'évoquiez en 1973, un coup de tonnerre, la parution en France de la France de Vichy, de l'historien américain Robert Paxton, qui a travaillé donc sur les archives allemandes pour écrire cet ouvrage, archives allemandes qui révèlent que les autorités françaises pendant la Seconde Guerre mondiale sont demandeuses de collaboration.
Oui, il faut bien rappeler le tournant historiographique que marque Robert Paxton. C'est que jusqu'à Robert Paxton, on disait que tout avait été fait sous la pression des Allemands, y compris d'ailleurs la politique antisémite. Le Reich exigeait un certain nombre de choses du régime vichyste et le régime de Vichy essayait de résister tant bien que mal. Paxton inverse les perspectives et montre que c'est le contraire qui s'est produit, puisque ce sont au fond toujours les Français qui ont demandé une collaboration dont les Allemands, au fond, ne voulaient pas.
Dans l'optique de se placer, en fait, dans l'Europe sous la domination du Reich.
Voilà, dans l'optique d'être le brillant second de l'Allemagne et de voler cette place de brillant second à l'Italie.
Alors, on avance toujours dans cette histoire de la Ve République. Valéry Giscard d'Estaing, que vous traitez dans le même chapitre, qui se caractérise par un certain nombre, dites-vous, de faux pas. Donc, dès 1975, il met fin aux célébrations autour du 8 mai 1945. Le 11 novembre, il fait fleurir la tombe du maréchal Pétain. Et ses autorités, donc placées sous sa présidence, se montrent, dites-vous, relativement indigne, notamment lors de l'attentat de la rue Copernic, ce qui contribue à radicaliser la situation.
Oui, je dirais que chez Valéry Giscard d'Estaing, je ne crois pas qu'il y ait de cynisme. Je pense qu'il y a une très profonde indifférence. Très profonde indifférence par rapport au passé, qui est d'ailleurs assez surprenante de la part de Valéry Giscard d'Estaing, parce que c'est un homme d'avenir qui parle assez peu du passé, au fond. Donc le passé ne le hante pas. Et donc, il vient d'une famille de droite qui est une droite conservatrice non gaulliste, et je crois qu'il n'a jamais véritablement adhéré au gaullisme. Et donc, il est extrêmement indifférent à tout un ensemble d'éléments. Pour lui, Vichy, ce n'est sans doute pas le diable. Pétain, en tous les cas, ne l'est pas. Et quand la communauté juive est frappée par les attentats de Copernic, eh bien, il réagit ici encore avec une indifférence qui scandalise non seulement, bien entendu, les juifs de France, mais parce que cet attentat a quand même une valeur universelle qui scandalise également toute une partie de l'opinion publique. Donc vous avez ce phénomène qui est compensé en revanche par un élément, c'est le vote d'une loi très libérale qui va permettre à partir de 1979 aux historiens de travailler sur les archives de Vichy et donc de développer au fond la recherche historique sur cette période de l'histoire de France.
1979, c'est aussi la date des premières inculpations pour crimes contre l'humanité. Donc on voit que les choses avancent sur le plan judiciaire qui est un terrain important. On en arrive au chapitre 5, Olivier Wieworka, aux ambivalences de l'ère Mitterrand. Je reprends là également le titre de votre chapitre. Qui tiennent aussi au parcours, disons, tortueux du président de la Ve République, François Mitterrand.
Oui, le problème de François Mitterrand, je crois, n'est pas un problème d'itinéraire. Vous avez beaucoup de Français qui ont suivi l'itinéraire de François Mitterrand. Le problème, en revanche, est un problème mémoriel, c'est-à-dire que François Mitterrand a menti sur son itinéraire. Et du coup, il s'est toujours présenté comme le héros, au double sens du terme, de la résistance, et on s'aperçoit avec les révélations de Pierre Péan qu'en fait François Mitterrand a fait un bout de chemin avec Vichy. Et du coup, un certain nombre de gestes, comme le fait par exemple de fleurir la tombe du maréchal Pétain, qui était difficilement acceptable de la part de Valéry Giscard d'Estaing, mais qui, pour beaucoup d'hommes de gauche, était encore plus inacceptable, acquiert une compréhension, un sens, une intelligibilité de manière donc rétrospective. Et donc François Mitterrand est en quelque sorte piégé, parce que je crois que François Mitterrand n'a jamais été antisémite, je crois que c'est également quelqu'un qui a été un ami d'Israël, et de l'autre il est au fond prisonnier d'un passé qui ne passe pas, et qui l'amène à se montrer très indulgent par rapport à Vichy. D'où au fond satisfaction donnée d'un point de vue mémoriel aux Juifs de France sur un certain nombre de points.
C'est-à-dire l'institution de la journée du 16 juillet.
Voilà, l'institution de la journée du 16 juillet, le fait que la Shoah occupe désormais dans le paysage mémoriel officiel français une place centrale.
17 juillet 1994, l'inauguration du monument commémorant la rafle du Vel'd'Hiv.
Voilà. Et puis, d'autre part, des éléments qui, semblant montrer une certaine indulgence par rapport à Vichy, vont accentuer le fossé qui sépare une partie de l'opinion publique du président de la République.
Son successeur, ensuite, Jacques Chirac, qui, dès son arrivée au pouvoir, veut marquer une rupture avec son, avec donc son prédécesseur François Mitterrand, et qui entend justement lever le voile sur la période vichyste.
Oui, ce qu'il y a de fascinant, c'est que Jacques Chirac a au fond joué contre son camp. Car De Gaulle le disait, Vichy n'a jamais existé. Or voilà que Jacques Chirac, en juillet 1995, proclame que Vichy a existé et que Vichy, ce n'est peut-être pas toute la France, mais, pour aller vite, c'est la France. Plus exactement, c'est l'État français. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que cette prise de risque, opérée par un discours qui est d'une très grande noblesse, a, vous le constaterez vous-même, interrompu toutes les polémiques. Vous n'avez plus, aujourd'hui, de polémique sur Vichy. Donc, même si Jacques Chirac n'est pas fidèle à la doxa gaulliste, hein, il a accompli, je crois, un geste qui a été attendu par l'opinion publique française en général et les Juifs de France en particulier, c'est-à-dire la reconnaissance des torts du régime de Vichy, et donc assainit aussi singulièrement le paysage mémoriel. Ceci dit, d'autres problèmes ne vont pas tarder à se poser.
Un de ces problèmes, c'est que du coup, les résistants considèrent qu'ils sont en grande partie dépossédés de la mémoire des années sombres.
Vous avez une très grande amertume de la part des résistants dits de l'intérieur, les mouvements, les réseaux, et de la part également des forces françaises libres. Car il est clair qu'aujourd'hui, si vous demandez à un collégien ou à un lycéen, pour vous, la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? Il vous répondra, c'est la Shoah. Pour vous, quel est le camp de concentration? Il vous répondra, c'est Auschwitz et ce n'est pas Buchenwald. Donc vous avez une très très grande amertume. Tout simplement parce que nous sommes passés à un autre régime mémoriel, tout simplement également parce que la reconnaissance de la centralité de la Shoah a tardé, c'est un phénomène relativement récent, je crois l'avoir montré, et précisément cette centralité de la Shoah dans le paysage mémoriel, eh bien, accentue la très grande amertume des résistants qui, au fond, ont l'impression de ne plus avoir voix au chapitre, ou en tous les cas, d'être absents du Panthéon national.
Olivier Wieworka, il nous reste très peu de temps. Une dernière question. Une nouvelle donne sarkozyste, c'est le titre d'un de vos paragraphes, mais vous mettez un point d'interrogation.
Oui, il est clair que Nicolas Sarkozy, pour autant que l'on puisse en juger, essaye de rompre avec cette vision en revenant au fond aux fondamentaux gaullistes, c'est-à-dire l'exaltation de la résistance et le refus de la repentance. Cela ne veut pas dire que pour Nicolas Sarkozy, il y ait volonté d'atténuer la centralité de la Shoah, par exemple. Non. Nicolas Sarkozy est attaché au souvenir de la Shoah, et il le montre, mais je pense qu'il a envie de sortir d'un régime de repentance et d'un régime de victime, d'un régime mémoriel où les victimes sont reines, pour repasser à une vision héroïque qui est plus en phase, au fond, avec le volontarisme dont il se targue.
Et vous dites que c'est quand même une affaire à suivre parce que ses premières initiatives n'ont pas forcément donné les suites qu'il envisageait.
Bien, le problème, c'est qu'on peut se demander qui conseille Nicolas Sarkozy dans ses choix, parce que prendre Guy Moquet, qui n'est pas un résistant, comme symbole de la résistance, prendre également les Glières dont peu de gens se souviennent, ce sont des choix qui peuvent paraître un petit peu bizarres, en tous les cas qui n'ont pas l'écho que les choix gaullistes ont eu. Tout le monde se souvient du discours d'André Malraux lors de la panthéonisation de Jean Moulin. Je ne crois pas que beaucoup de gens se souviennent de la lettre du jeune Guy Moquet avant d'être fusillé.
Olivier Vevorka, je rappelle le titre de votre essai, La mémoire des unis, le souvenir politique des années sombres, de la libération à nos jours, publié aux éditions du Seuil. Je vous remercie.
Merci.
C'était Mémoire vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous pouvez retrouver Mémoire vive sur le site de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin sur le site qui rassemble toutes nos émissions en archives, www.mémoirevive au pluriel.net.